depuis quelque temps, je fais un suivi dans l'évangile de Marc. Je pense que pour vous, ce n'est pas une surprise. En tout cas, ça ne devrait être pas une surprise. Qu'est-ce que le pasteur va prêcher la semaine prochaine? Ben, si vous continuez comme moi, ben, vous allez voir que la semaine prochaine, je serai toujours dans le chapitre 8. Et que je dirai la continuité du chapitre 8, parce que j'ai encore pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, on va regarder ensemble du verset 10 au verset 26. La prochaine fois, nous continuerons, en tout cas, dans ce passage. Alors, dans ce chapitre, j'ai cherché des titres. J'ai donné le premier titre, c'était « Enseigne-moi Jésus, Seigneur ». C'était le premier titre. Le deuxième titre, c'était « Aide-moi Jésus, Seigneur ». Dans le sens qu'il a aidé une personne à être délivrée, donc la syro-phénicienne, dans la fin du chapitre 7. Et aujourd'hui, nous allons voir un troisième titre, c'est « Avertis-moi, Seigneur ». Et je pense que ce passage que nous allons regarder ensemble, le Seigneur a toujours averti. Et de son temps, déjà, avec ses disciples, quand il les enseignait, comme les personnes qui venaient le voir, parce que ça ne s'est pas limité uniquement à ces 12. Bien sûr que ces 12 étaient privilégiés, puisque le Seigneur leur enseignait beaucoup de choses en privé, mais en même temps, l'occasion était donnée aussi de dire les choses publiquement aux personnes qui venaient le voir. Et entre autres, dans le passage, vous allez voir que le Seigneur va vraiment parler à ces pharisiens qui venaient sûrement régulièrement le voir et pour demander des choses un petit peu particulières. Et vous allez voir, comme moi, la réaction du Seigneur. Alors, il y a pas mal de choses à regarder dans ce texte. On va essayer de le lire ensemble et puis d'aller dans le vif du sujet, si vous voulez bien, pour qu'on essaye de retenir un petit peu. Alors, je loue le Seigneur, la lumière, elle dirige bien, je vois bien, j'ai plus d'excuses, je peux lire bien le texte. Alors, pour ceux qui ont construit cet appareil au-dessus de ma tête, il y a eu des remarques qui ont été faites, mais ça restera des remarques. Hein. C'est, paraît-il, non pas pour éclairer le texte de la Bible, mais c'est pour éclairer mieux le pasteur, mais ça reste entre nous, d'accord? Ça n'a pas été le but de cette lampe qui est au-dessus de ma tête, d'accord? C'est pour mieux éclairer les textes que nous avons là sous les yeux. On va lire ensemble ce texte, si vous voulez bien. Marc, chapitre 8, les versets, tout d'abord 10 à 21. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dulmanuta. Les pharisiens survèrent et se mirent à discuter avec Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit, dit « Pourquoi cette génération me demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et s'en avaient qu'un seul, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnèrent entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyons-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5000 pains pour les 5000 hommes, combien de pains pleins de morceaux avez-vous apporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains avec les 4000 hommes, combien de corbeilles de morceaux avez-vous emporté? 7, lui répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Voilà des questions et des réponses qui ont besoin parfois d'être éclaircies de notre part. Alors, j'ai parlé la semaine dernière que le Seigneur a aidé une Cananéenne à être délivrée de sa fille qui avait un démon à un moment donné, donc elle s'est jetée au pied de Jésus et Jésus l'a libérée. Il va faire d'autres choses et le texte nous le rappelle, il va aussi guérir des malades, plusieurs autres malades vont être guéris. On ne va pas forcément donner leur nom, on ne connaît pas forcément leur identité, mais le Seigneur était venu dans ce but-là, bien précis, de bien sûr faire du bien à l'humanité qui était autour de lui et qui avait besoin d'être libérée. Pour certains, c'était un enfant, pour d'autres, c'était une maladie qu'ils avaient, pour un autre, c'était un handicap. Enfin, certaines personnes venaient voir Jésus souvent pour demander des choses extraordinaires. Ici, la demande, il faut bien l'avouer, elle est particulière. Et la demande que ces pharisiens vont faire, c'est on a vu des tas de choses venir de ta part. On a vu des miracles, on a vu des handicapés remarcher, on a vu un lépreux guérir de la lèpre, mais là on veut voir un signe venant du ciel. Et je me suis souvent posé la question par rapport à ces signes que les pharisiens pouvaient demander au Seigneur Jésus-Christ. Je me dis, c'est quelque chose de grandiose quelque part. On sait dans la Bible, parce qu'on l'a déjà lu, qu'à un moment donné, Dieu a envoyé sur les faux prophètes dans l'Ancien Testament avec Élie, les flammes du ciel qui sont tombées sur les faux dieux à un moment donné. Et nous avons un petit peu dans l'idée peut-être que ces pharisiens demandaient des choses grandioses, des choses spectaculaires. Mais soyons honnêtes, quand on regarde la parole de Dieu, si vous voyez demain un handicapé, et que du jour au lendemain il marchait cet handicapé, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si vous voyez demain une personne qui est remplie de lèpre, enfin je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un rempli de lèpre, et que cette personne du jour au lendemain n'a plus la lèpre, c'est pas quelque chose de grandiose, d'extraordinaire. Non, ces pharisiens voulaient des choses qui venaient du ciel. C'est-à-dire, montre-nous quelque part ton identité. Montre-nous d'où tu viens. Si tu viens du ciel, eh bien, montre-nous quelque chose du ciel. Alors, nous avons la réponse du Seigneur, hein, verset 12. Jésus soupira profondément dans son esprit. Et on peut se poser la question, pourquoi ce soupir de la part du Seigneur? Est-ce qu'il n'était pas capable d'envoyer les feux du ciel sur ces personnes qui avaient un cœur endurci, tellement dur, il aurait pu leur dire, eh bien écoutez, vous voulez le feu du ciel? Eh bien le feu du ciel va vous tomber sur la tête. Vous le voulez le feu du ciel? Eh bien parce que votre cœur est endurci, votre aveuglement vous montre que, eh bien je vais vous le faire tomber sur votre tête. Eh bien, c'est pas ce que le Seigneur a fait, et c'était pas son but venant ici-bas sur cette terre. Quelque part, il voulait que tout homme aille dans l'éternité. Son but ici-bas sur cette terre, c'était pas de foudroyer des personnes. Son but sur cette terre était de les apporter à la croix, de les apporter à la confession, de les apporter à la repentance. Et le problème, ces personnes, eh bien, voulaient des signes en voulant voir quelque part de la part du Seigneur un amuseur plus qu'autre chose dans leur cœur. Je pense que l'incrédulité de leur foi était flagrante. Ils avaient vu des choses extraordinaires. Et que dire des disciples qui, eux, ont vu des choses physiques se réaliser devant eux, mais on va le voir un petit peu plus tard. Je pense que la vraie foi véritable ne demande pas de signe à Dieu. Vous savez, bien souvent, on est dans cette attitude aujourd'hui. Seigneur, si tu existes réellement, fais un signe. Fais-moi un petit coucou du ciel. Mais je me dis souvent, vous savez, le Seigneur vous fait un coucou du ciel tous les jours. Simplement parce que votre cœur bat tous les jours. Chaque fois que tu te lèves le matin, que ton cœur bat, le Seigneur te fait un petit coucou du ciel. Il te dit, je te laisse encore la vie. Je te laisse encore la possibilité de m'accepter en tant que Seigneur Jésus-Christ. La vie que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et beaucoup d'êtres humains, malheureusement, ne le reconnaissent pas. La véritable foi se contente de la parole de Dieu et se satisfait du témoignage de la parole de Dieu. Mais l'être humain ne s'en contente pas. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ devait sûrement parler plusieurs fois à ces personnes. Il les a enseignés plusieurs fois, même les disciples, il les a enseignés plusieurs fois. Mais ils avaient le cœur dur. Vous savez, on est un petit peu cette génération qui pense qu'on peut demander des signes dans le ciel sous prétexte de dire, eh bien, si tu me montres ce signe, je vais croire en toi. Mais voyez-vous, ces gens-là, les pharisiens de l'époque, c'était des personnes qui lisaient leur Bible quotidiennement, l'Ancien Testament. C'était des personnes qui étaient endurcies dans leur manière de faire. Et ils sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ, mais dans leur cœur, trop de connaissances tuent la connaissance. Vous connaissez cette expression ? Trop de trucs dans la cervelle, eh bien, tuent la cervelle parfois. Et je pense que ces hommes, eh bien, avaient trop de connaissances. Ils ne mettaient pas en pratique tout simplement la parole de Dieu. Ils avaient tout simplement oublié de mettre en pratique la parole de Dieu. Et je crois que dans notre esprit, eh bien, nous devons nous rappeler cela. Vous savez, la nation d'Israël connaissait l'histoire d'Israël. Et quand on regarde l'Ancien Testament, ils savaient ce qui s'était passé dans la nation d'Israël quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Quand vous regardez cette histoire, je me dis, mais c'est quand même incroyable tout ce que Dieu a permis. Tout ce que Dieu a permis pour que Israël sorte de l'Égypte. Dieu a pourvu aux besoins matériels, physiques. Dieu a été, je dirais même, a combattu l'Égypte à un moment donné. Et nous voyons que malgré ça, la parole de Dieu nous montre que leur cœur était endurci. Voyez-vous, on peut voir des choses grandioses, mais quand vient le problème dans notre vie, on oublie le spectaculaire de la veille. C'est-à-dire, on oublie ce que Dieu a fait dans notre vie la veille. Et je me dis, on a parfois la même attitude vis-à-vis du Seigneur. C'est-à-dire, on demande des choses vraiment grandioses et merveilleuses, mais un autre texte en parallèle dit, cette génération perverse et méchante me demande des signes. La réponse que le Seigneur a donnée, c'était le signe de Jonas. Le texte ici, Marc n'en parle pas. L'évangile de Matthieu en parle. Eh bien, ça résume bien le contexte que le Seigneur voulait qu'il soit enseigné. C'est sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Je pense que ça illustre bien ce que le Seigneur voulait enseigner. Là, il n'a pas réagi et c'est tant mieux que Dieu n'a pas réagi parce que tout simplement, eh bien, il pensait que peut-être un jour, quelques pharisiens ou quelques responsables là se convertissent et viennent à lui. Maintenant, passons à l'étape sur les disciples. Je me dis, bien souvent, quand je lis ces textes, ou quand vous les lisez, ces textes, comme moi, je me dis, mais ils ont vraiment le cœur oublieux. Faut bien avouer, enfin bon, on fait le suivi dans l'évangile de Marc. Je dirais, allez, retournons un petit peu en arrière. Retournons un peu dans le futur, comme on appelle ça aujourd'hui. Pas dans le futur, pardon, en arrière, juste en arrière quelques instants. Ils ont vu que le Seigneur Jésus, à un moment donné, il a arrêté la tempête parce qu'il était dans la barque. Il y a eu une deuxième tempête, ils ont vu quand même que le Seigneur avait arrêté la tempête. Ils ont vu la multiplication des 5 000 personnes. Enfin, et quand on dit 5 000 hommes, c'était sans compter les enfants et la maman. D'accord, donc j'imagine que ça devait être peut-être 20 ou 30 000 personnes qui ont eu à manger ce jour-là. Ils ont vu des choses quand même extraordinaires. Nous sommes un peu impressionnés de voir que l'oubli, là, de cette situation, l'oubli du pain, fait raisonner les disciples en leur disant, mais ils sont durs, n'est-ce pas, ces personnes-là, ils sont durs. Alors, on ne va pas leur jeter la pierre, parce que franchement, toute honnêteté, il suffit de tourner les pages parfois de notre vie pour oublier ce qui s'est passé la veille, pour oublier ce que le Seigneur a fait dans notre vie, dans le passé. Et nous ne sommes pas mieux. Vous savez, quand viennent les difficultés dans la vie, on se dit, mais aïe, 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 comment je vais faire ceci ou comment je vais faire cela? Et on oublie ce que le Seigneur a fait dans le passé. Eh bien, c'est ce que David disait, hein, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire que David prenait conscience dans sa vie qu'il ne voulait pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Je me dis, parfois, on a besoin de s'asseoir. Quand viennent les problèmes, il n'y a pas besoin d'agitation, on n'a pas besoin de s'agiter quand viennent les problèmes. On a besoin simplement de s'asseoir, de prendre du temps avec le Seigneur et de se demander, Seigneur, voilà, donne-moi la paix, donne-moi la tranquillité, donne-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place dans telle ou telle situation ? Au lieu de paniquer comme c'était le cas pour les disciples là dans cette situation, ils avaient oublié de prendre le pain. Moi, je ne sais pas si vous mangez avec du pain à la table. Je sais que j'en ai toujours à table. Mais on me dit souvent, bah, il n'y en a pas, ben, c'est pas grave. On va faire autre chose. Ma femme me rappelle souvent, vous savez, on a acheté une belle machine, un batteur, vous savez, mais vraiment, on a mis un peu d'économie là-dedans pour avoir ce batteur. Ma femme, un jour, m'a dit gentiment, tu veux du pain? En me montrant la machine. C'était vraiment gentil, n'est-ce pas? C'était vraiment plein d'amour de la part de mon épouse. Après tout, on y a mis quelques économies. On y a mis quelques... un peu d'argent pour avoir ce magnifique batteur. Et ma femme me montre gentiment de temps en temps ce batteur. Alors là, je n'ai pas lui dire maintenant ça, parce que sinon, je vais être obligé tous les jours de me lever à 4h du matin pour faire le boulanger, de faire le pain à la maison. Mais ça reste entre nous, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, il y a des fois, on oublie les bienfaits de l'Éternel. Et je pense que nous sommes tous pareils. Nous oublions la fidélité et la bonté de Dieu. On oublie ce que le Seigneur a fait dans notre vie. On oublie parfois ce que Dieu a fait dans le passé, dans notre vie. Ce matin, il y a plusieurs prières qui se sont levées en disant « N'oublions pas la croix ». Bien sûr, on ne peut pas oublier ce que Dieu a fait dans notre vie à un moment donné, parce que nous savons que nous prenons conscience que sans Jésus, sans ce fait que Jésus est passé à un moment donné dans notre vie, à un moment donné dans notre existence, on prend conscience que personne ne serait ici ce matin. Et moi, je me dis souvent que chacun prenne conscience de cela dans sa vie. C'est-à-dire que si ce n'est pas réglé avec le Seigneur, si le Seigneur n'est pas encore dans ta vie personnelle, prends conscience que c'est aujourd'hui le jour de grâce, ce n'est pas demain. Le Seigneur a agi avec toi avec grâce durant jusqu'à présent. Si ce n'est pas réglé avec le Seigneur Jésus-Christ, n'attends pas demain pour mettre ta vie en règle avec lui. C'est aujourd'hui le temps de grâce. Et je pense que, comme nous l'a rappelé Daniel, qui est venu la semaine dernière, qu'il a fait un appel. Alors, on n'est plus habitué, vous savez, dans les milieux évangéliques, de faire des appels, de faire venir les gens, de s'approcher, de se mettre à genoux, de demander pardon. Je sais que quand j'ai accepté Jésus-Christ, il y avait cet aspect-là dans certaines églises évangélique. On a enlevé ça de plus en plus parce que certains ont prétendu, certains commentaires que j'ai lus, ont prétendu de la manipulation. Dire faire avancer les gens publiquement devant la chair, c'est un petit peu de la manipulation. Mais moi, je voudrais que nous puissions comprendre dans le milieu évangélique aujourd'hui, si c'était de la manipulation pour me mettre dans l'éternité, eh bien, je veux continuer à faire des appels pour le Seigneur Jésus-Christ. Pour que le Seigneur Jésus-Christ parle dans votre cœur et que vous puissiez prendre conscience dans votre esprit que la repentance, eh bien, ça vous apporte dans l'éternité. Si vous ne prenez pas conscience de la repentance, vous n'aurez pas d'éternité. Si vous ne prenez pas conscience que vos péchés, le Seigneur Jésus-Christ peut vous les pardonner, vous n'aurez pas l'éternité. Et je pense que nous avons besoin, bien sûr, de nous le rappeler dans notre esprit, de se dire, eh bien, ne soyons pas hypocrites devant le Seigneur. Nous savons que notre vie n'est pas en règle. Eh bien, réglons-la une fois pour toutes et présentons-nous devant le Seigneur. Le Seigneur va aussi les avertir dans ce texte en leur parlant des pharisiens. Ils disent, mais ils ne pratiquent pas. Voilà un petit peu la conception quand on regarde les scribes et les pharisiens dans le Nouveau Testament. Ils disent, mais ils ne pratiquent pas. Les Hérodiens, eux, étaient un groupe qui était attaché au monde et favorable à Hérode. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu quelques commentaires qui sont donnés par rapport à ces personnages que nous trouvons là, parce que le Seigneur les met en garde vis-à-vis de ces levains, donc les pharisiens et les Hérodiens, qui étaient des personnes qui vivaient à l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Alors, les pharisiens, ils disent mais ils ne pratiquent pas. Les Hérodiens, c'est quoi? Ce sont des gens qui étaient un peu attachés, vous savez, ni figue, ni raisin. C'est une expression que nous disons souvent dans le sud de la France. On ne sait pas où mettre le pied. On a un pied dans le monde et on a un pied avec Dieu. On ne sait pas trop où se placer parfois. Mais c'est exactement ce que ces Hérodiens faisaient. Ces Hérodiens étaient un pied dans le monde et un pied avec Dieu. C'est-à-dire, ils lisaient la Bible. Ah oui, sûrement, ils devaient la lire, la Bible. Mais ils ne devaient pas sûrement la pratiquer. Parce que quand Dieu leur demandait sûrement de manifester de la compassion, quand Dieu demandait de manifester de l'amour, quand Dieu demandait, ah ben, d'abord, c'est mon intérêt, d'abord moi personnellement. Et le Seigneur les appelle les faux docteurs. Alors, bien sûr que ces personnes devront prendre conscience que ça existe encore aujourd'hui, ces faux docteurs. Ces personnes qui prennent la parole de Dieu et changent parfois une virgule dans la parole de Dieu, qui veut dire complètement tout son sens contraire. On aime bien la langue française, n'est-ce pas? Et la langue française est très précise. Et nous voyons plusieurs exemples dans la vie de tous les jours que la langue française est très précise. Enlever une voyelle dans un mot parfois, ou une consonne dans un mot, le mot veut dire complètement tout le contraire parfois. Et nous avons parfois cette pensée que nous ne faisons pas attention, et le Seigneur, bien sûr, avertit ses disciples en leur disant « prenez garde à ces personnes qui disent et qui ne pratiquent pas, à ces personnes qui marchent à cloche-pied, qui marchent un peu dans le monde et un peu avec Dieu, mais souvent plus dans le monde qu'avec Dieu. » Oui, attention à cette pomme pourrie. Vous savez bien que si vous laissez une pomme pourrir dans votre saladier, eh bien, ça va pourrir tous les autres. Il y a eu quelque temps, j'ai eu une bonne intention. J'ai récupéré des pommes dans le verger que nous avons à l'extérieur ici. Et dans mon esprit, je me suis dit, allez Nicolas, t'es un peu motivé. Ce sont des bonnes pommes rouges, t'as plus qu'à les éplucher et à faire une bonne compote de pommes. J'étais très présomptueux dans mon esprit, mais voilà que la vie a pris le dessus. Et les pommes, je les ai laissées tranquillement pourrir dans le saladier. À un moment donné, j'ai dû prendre conscience que, eh bien, d'une a pourri une deuxième, a pourri une troisième, a pourri une quatrième, une cinquième, etc. J'ai dû prendre conscience que, voilà, tu avais de bonnes intentions, Nicolas, mais tu as laissé pourrir les pommes dans le saladier. Donc maintenant, tu peux les jeter pour que les oiseaux passent et récupèrent ce qui en reste. Voyez-vous, avec le Seigneur, il faut qu'on prenne garde. Quand le Seigneur nous avertit par rapport à ces personnages qui sont dans la parole de Dieu, les pharisiens, les hérodiens, les scribes et d'autres personnages qui souvent sont donnés, montrés du doigt par le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous aussi, nous devons prendre garde par rapport à cela aujourd'hui. Le Seigneur nous avertit et continue à nous avertir. Les disciples, vous avez l'exemple que le Seigneur va les reprendre parce qu'ils avaient entendu leur raisonnement. Et le Seigneur va leur gentiment les remettre en place. Il faut dire la vérité que on a besoin parfois d'être secoué par le Seigneur Jésus-Christ. On a besoin parfois que le Seigneur Jésus-Christ nous secoue, nous rappelle certaines évidences, certaines choses de notre vie parfois. On a besoin de se rappeler parfois que le Seigneur Jésus vienne nous voir et nous dise « Mais vous avez point de mémoire ?» Vous avez point de mémoire? Alors, je comprends pour les personnes qui ont l'Alzheimer, c'est la maladie du siècle, hein, l'Alzheimer, c'est la perte de la mémoire. Mais je pense qu'ici, il n'y a personne qui a la perte de la mémoire. À moins que vous êtes parfois comme moi, un peu oublieux, que vous oubliez, que vous avez une belle machine pour faire une belle à la maison. Ça m'arrive des fois d'oublier, mais c'est un oubli volontaire. Je vous le dis entre vous et moi, hein, ne le répétez pas à ma femme, hein. Ne le répétez surtout pas à ma femme, mais c'est parfois un esprit volontaire, j'oublie que j'ai certaines choses à la maison. J'avais déjà trop dit, donc, mais voyez-vous, parfois, avec le Seigneur, on a la même attitude, on oublie ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et le Seigneur rappelle cela à ses disciples, avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et ne voyant pas, ayant des oreilles et n'entendez-vous pas, et n'avez-vous point de mémoire? Vous savez, ça fait partie au sens vital de l'être humain. Moi, j'aime beaucoup voir avant de prendre, avant de manger. Déjà, avant de manger, j'ai déjà grossi de 500 grammes. Si mon plat me plaît, j'ai déjà pris 500 grammes, rien que de le fait de le voir. Rien que le fait de l'analyser, de savoir les ingrédients qui sont à l'intérieur, j'ai déjà pris 500 grammes. Mais vous savez, le Seigneur fait appel à ces sens-là que nous avons besoin de nous rappeler parfois dans notre vie. Est-ce que nous avons un cœur endurci quand on lit la parole de Dieu ou quand le Seigneur nous reprend intérieurement? Est-ce que nous avons des yeux et qu'on ne voit pas les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous avez des oreilles et que vous n'entendez pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a à vous dire ce matin? Ou vos neurones que vous avez dans votre esprit qui fonctionnent très bien, gloire à Dieu, hein, qui fonctionnent très bien, parce que au fur et à mesure que vous allez avancer dans la vieillesse, au fur et à mesure vous allez les perdre. Hein. Oh, c'est pas voulu, hein. Non, c'est voulu par Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur vous a placé des magnifiques instruments dans votre tête, que ça dure un certain temps. Et puis au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'âge, pour certains ça va plus vite que d'autres. Mais le Seigneur, à un moment donné, permet qu'il arrive un oubli. Et vous savez, c'est difficile d'avoir des personnes qui oublient. Un papa, un maman qui passe dans la maladie, et l'enfant vient voir, mais qui tu es, toi? C'est difficile, n'est-ce pas, de savoir que l'être humain peut avoir toute une conception, mais qu'on oublie les bienfaits de l'Éternel. Ça fait partie aussi parfois de notre quotidien. Le Seigneur a besoin de nous le rappeler. Et si ces textes sont donnés dans la parole de Dieu, c'est que nous avons besoin, bien sûr, de nous les rappeler au quotidien. Alors aujourd'hui, nous devons apprendre des leçons au travers de ce texte. Je n'ai pas parlé de la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Peut-être un jour, je l'aborderai un petit peu plus dans le détail. Le temps passe, mais je voudrais passer un petit peu, simplement pour aller à la conclusion. Je voudrais juste vous dire que les leçons que nous pouvons tirer de ce texte, c'est n'attendons pas le miracle, mais vivons par la foi avec la parole de Dieu. Je pense que le Seigneur nous a laissé la Bible. Et la Bible est toute suffisante pour que nous puissions prendre conscience qu'elle est importante, notre vie, quand on la vit par la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Le Seigneur ne nous a pas promis de nous montrer tout l'avenir. Imaginez que le Seigneur vous dise aujourd'hui, écoute, quand tu arriveras entre 80 et 85 ans, tu vas te retrouver dans une maison de retraite, assis sur une chaise, et tu ne vas plus reconnaître personne. Je suis persuadé que tous ici, hein, on ne signe pas. Moi le premier, hein, moi le premier, je ne signe pas. Moi, si le Seigneur me dit qu'à cet âge-là, je vais arriver dans un endroit, à un moment donné, où je n'ai pas envie d'y aller, franchement, je ne signe pas. Et il vaut mieux pas que le Seigneur nous montre l'avenir. Hein. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le présent. Et ce que je vis avec le Seigneur, dans le présent. Demain, il suffit de le voir avec le Seigneur Jésus-Christ. De faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. De vivre par la foi. Et c'est ce qui m'importe plus aujourd'hui. Faisons confiance à Jésus de répondre à nos besoins. Vous savez, les disciples avaient besoin qu'ils se rappellent. Mais oh, j'ai donné à manger à 4 000, à 20 000 personnes. Vous l'avez oublié? Vous avez oublié ce que j'ai fait dans le passé pour vous? Vous avez oublié de l'endroit où je vous ai sorti des ténèbres? Vous avez oublié ça? Et je me dis, mais parfois, on est obligé de se rappeler ces textes-là, de se rappeler à la mémoire que faisons confiance quand nous avons des besoins, et de faire au Seigneur, de dire au Seigneur, voilà, je te fais confiance. La Bible aussi nous rappelle par cette leçon-là, c'est éviter le levain des faux docteurs. Je pense que nous devons être des hommes et des femmes avertis, nous le sommes, Dieu merci. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et voyez-vous, bien souvent, il y a certaines personnes qui jouent avec la Bible, qui jouent avec le Seigneur parfois, et qui peuvent dire, ben oui, la Bible ne dit pas réellement cela, ou ne veut pas dire réellement ceci, ou cela. Et en réalité, le texte est là devant leurs yeux, et ils en oublient l'essentiel. Ils disent, mais ils ne pratiquent pas. Ils font, ils parlent, mais dans leur vie, ils ne pratiquent pas. Et puis, la dernière leçon, c'est laisser Jésus œuvrer comme il entend, et attendez-vous à la variété dans les leçons de la vie avec le Seigneur. Il agira sûrement différemment avec vous qu'avec moi. Pour m'apprendre une leçon, le Seigneur va me montrer des situations dans ma vie sûrement différentes. Alors je reviens sur ce fameux robot que j'ai à la maison. Peut-être que vous n'en avez pas, vous, de robot, enfin je ne sais pas, mais j'avais besoin que, voilà, une petite leçon que j'ai apprise, elle était nécessaire, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, des fois on a une cervelle tellement fermée que le Seigneur a besoin de nous secouer. Comme une bouteille d'Orangina, pour ne pas citer que la bouteille d'Orangina. Alors, comme j'ai cité Orangina, je vais citer Fanta, je vais citer Coca, je vais citer, parce que maritime, maintenant, il faut dire au moins 3 ou 4 marques, pour ne pas être, non, ben, je plaisante. Mais, en attendant, n'est-ce pas, ne soyons pas oublieux. Laissons le Seigneur agir dans notre vie. Et le Seigneur agit, bien sûr, de diverses manières. Les disciples avaient besoin que le Seigneur les rappelle. Verset 21, pour conclure, et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Moi, j'ai envie d'avoir la suite. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Qu'est-ce que tu vas faire d'extraordinaire par la suite? Qu'est-ce que tu vas faire demain pour moi, pour que je puisse te glorifier demain? On n'a pas envie de dire ça parfois, Seigneur. Seigneur, j'ai vu des choses merveilleuses, tu as mis en pratique dans ma vie hier, mais demain, qu'est-ce que tu vas faire de merveilleux pour moi? Alors, demain, laissons demain, n'est-ce pas? Mais nous pouvons demander au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, fais que je comprenne l'essentiel aujourd'hui. Demain, si j'ai une autre leçon à prendre, je suis persuadé que tu en prendras les moyens pour que je puisse l'apprendre. Amen.